Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Ich begrüße euch für die nächsten 55 Minuten für eine weitere Mission aus der Serie Konferenzen. Schön, dass ihr Radio 100,7 angeschaltet habt. Mein Name ist Carlo Link. Am Kader von 25 Jahren Lützeburg Patrimoine Mondial steht bekanntlich das Jahr die Konferenz von Les Rendezvous de l'UNESCO. Der Vortrag vom 5. Oktober, auf dem wir schon an einem kurzen Resümee ergangen waren, war überschrieben Le Patrimoine architectural du XXe siècle, Art nouveau, Art total aux multiples facettes. Les sites classés à l'UNESCO et le Grand Duché de Luxembourg. Die Konferenz hier war Muriel de Greuf von der Musée Royal de Beaux-Arts de Belgique. Sie als Kunsthistorikerin an einer anderen Autor von der Publikation von Jugendstil au Grand Duché de Luxembourg an Art Nouveau au Grand Duché. Der vierte französische Spruch, den wir sozusagen linear diffusieren, ist eine verkürzte Version, wenn ihr um komplette vierte interessiert seid. Die Fantasien in den Konferenzen am Deres-Programm auf 100,7.lu oder auch an unseren Archiven, wo übrigens alle Konferenzen chronologisch abgelöscht sind. Am Vortrag gab es relativ viele Fotos von Sujets gewiesen, die auch gut von der Konferenz her beschrieben sind. Leider können wir aus verschiedenen Gründen die Fotos auf unserem Site des Kehr nicht weisen. Tvoit gine gelo aber der Präsidentin von der Lützeburger Kommission für die Kooperation mit der UNESCO, die Introduktion von der Simone Beck.
Parmi les 1121 sites à valeur universelle exceptionnelle qui figurent aujourd'hui sur le registre du patrimoine mondial, 869 sont des sites culturels. Une très grande majorité de ces sites, à savoir 558, sont de caractère architectural. L'Art Nouveau y est représenté avec les œuvres d'Antonio Gaudi, de Joseph Hoffmann et bien sûr de Victor Horta. Nous pouvons regretter que des œuvres majeures de l'Art Nouveau dans le monde ne figurent pas sur cette liste. Ainsi, les pionniers anglais de l'Art Nouveau, William Morris ou John Ruskin, le travail de l'École de Nancy, le site de la Mathildenhöhe de Darmstadt, Charles Rennie Mackintosh et son Glasgow School of Art ne sont pas encore inscrits comme patrimoine mondial. Il faut toutefois préciser, l'initiative pour une candidature sur cette liste du patrimoine mondial doit émaner d'un porteur de projet basé sur le site. Ce n'est pas l'UNESCO qui choisit ces sites, c'est le Centre du patrimoine mondial qui évalue, accepte ou refuse une candidature. En ce qui concerne l'architecture moderne, soulignons que l'œuvre de Frank Lloyd Wright et de Le Corbusier font désormais partie du patrimoine mondial, tandis que les dessins et les plans du Brésilien Oscar Niemeyer sont inscrits à la mémoire du monde, le patrimoine documentaire de l'UNESCO. J'aimerais bien maintenant vous convier à un voyage qui nous mènerait au centre historique de Riga, en passant par le centre historique de Vienne, un site, vous le savez peut-être, classé par l'UNESCO en péril à cause d'un projet de haute tour d'habitation prévu au Neumarkt. Nous pourrions faire un petit saut par Budapest et ses magnifiques quartiers autour de l'avenue Andrássy. Nous continuerions ensuite par une excursion Bauhaus à Weimar, Dessau et Bernau, tout en allant visiter la structure urbaine de la ville ukrainienne de Lemberg, qui s'appelle aujourd'hui Lviv. Nous rendrions évidemment aussi visite à Barcelone pour y voir le Palais de la musique catalane ou l'hôpital de Saint-Paul de Luis Domènech i Montaner. Après un petit détour par Cuba et le centre historique de Camagüey, nous rentrerions à Luxembourg, où l'Art Nouveau occupe une partie du patrimoine architectural. Alors que dans bien des cités, l'Art Nouveau ne bénéficiait qu'un statut de périphérie, il s'affiche dès le XIXe siècle pleinement au centre-ville, à la place d'Armes, à la Grand-Rue, la rue des Capucins. En 1906, le conseil communal encouragea Alphonse Kemp à construire les bains municipaux aux influences Art Nouveau manifestes. Une des plus belles prouesses de l'époque fut la salle des fêtes et de gymnastique de l'école d'industrie et du commerce de Limpotsberg, aujourd'hui le lycée des garçons, conçu par l'architecte Gustave Serta. Le sublime numéro 23 boulevard Grand-Duchesse Charlotte est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments protégés. la rue Piat-Aspelt, certaines parties de la rue Tèche, la rue Albert Ier, présentent d'autres joyaux de ce patrimoine. Mais il est également présent en dehors de la capitale, à Esch, à Dudelange, avec la villa Emil Meyrich, à Diekirch et évidemment à Mondorf-les-Bains. Les noms des architectes Jean-Pierre König, Georges Strauss, Matthias Martin sont indissociables de l'art nouveau luxembourgeois. Le directeur d'école d'artisans de l'État, Antoine Hirsch, fut un de ses promoteurs majeurs auprès de plusieurs générations d'artisans luxembourgeois. On peut se rappeler dans ce contexte l'exposition sur le sculpteur d'art nouveau Jean Mich en 2018 au Musée national d'histoire et d'art. L'art nouveau au Luxembourg, comme ailleurs, concerne d'ailleurs aussi le mobilier et l'art funéraire. Tombé en déconsidération après la Première Guerre mondiale, il fallut attendre les années 1970 avec le travail de maîtrise en histoire de l'art d'Anne Fabeck pour s'intéresser de nouveau à l'art nouveau luxembourgeois. Il est à remarquer que peu de ce patrimoine a disparu, même si certains bâtiments furent purifiés de leurs décors exagérés dans la foulée du modernisme. Anne Fabeck trouva une disciple de qualité en la personne de l'historienne d'art Nelly Moya. Ultérieurement, Antoinette Laurent et Robert Philippard les ont suivis sur la voie engagée. Je suis donc heureuse que nous avons ce soir une guide de choix pour notre voyage, Madame Muriel de Gouff. Nous vous réjouissons de notre visite au Luxembourg et je vous cède volontiers la parole.
Merci beaucoup. Voilà donc cet art nouveau qui surgit à la fin du 19e siècle et qui se développe tout au début du 20e siècle un peu partout en Europe. Et bien entendu, un art qui peut prendre diverses formes, mais que distingue bien entendu toujours une ornementation spécifique et une conception novatrice de l'espace. Un art total qui se penche aussi bien sur la conception de l'architecture que sur celle d'une poignée de portes. Un art de la couleur, de la ligne, qui fascine, qui divise, mais ne laisse jamais personne indifférent. Complexe, voire vraiment difficile à définir en quelques mots, il fait toujours preuve d'une grande créativité, d'une imagination débordante. S'érigeant tout d'abord comme une volonté d'affirmer cette modernité si chère à Baudelaire, c'est un art de la liberté, une liberté par rapport au style du passé. Comme vous l'a dit Madame Beck, il a été fortement déprécié après la Première Guerre mondiale et il a connu une longue période de purgatoire qui résulta en un grand nombre de destructions. Certains de ces témoignages sont aujourd'hui et fort heureusement classés par soit sur des listes de bâtiments dans les différents pays, soit par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est pour ça que je commencerai mon exposé en rappelant les principes de l'essai-style et en les illustrant par des monuments qui sont donc justement classés par l'UNESCO. Et c'est le cas de cette maison de Victor Horta, dont vous avez vu la poignée de porte, la rampe d'escalier et également ici le haut de la cage d'escalier. Elle a été construite en 1898 à Bruxelles. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si l'art nouveau se développe dans les régions qui connurent un grand développement économique. Il fallait bien entendu une clientèle aisée, une clientèle de mécènes éclairés et riches. C'était l'une des conditions sine qua non de son essor. Ensuite, je me propose d'illustrer la richesse de ce mouvement à travers divers exemples d'architecture et d'art appliqué au Grand-Duché de Luxembourg. À chaque époque, son art, à l'art, sa liberté. Tel fut le credo de l'homme moderne, et vous le voyez ici fièrement noté sur la façade du célèbre pavillon de la Sécession, dont j'ai préféré, plutôt que de vous montrer une photo que vous pouvez aisément retrouver dans un livre, eh bien, je préfère vous montrer le dessin qu'a réalisé l'architecte, bien entendu, Joseph Maria Olbrich. Ce pavillon a d'ailleurs été construit la même année que la maison de Victor Horta, 1898. Avec l'architecte Otto Wagner et les célèbres Wiener Werkstätte, Olbrich laissera son empreinte sur la ville de Vienne, enrichissant ainsi un patrimoine déjà très riche. Les couleurs normalement vertes, blanches, dorées, cohabitait très bien avec le bâti existant. Mais vous le voyez sur ce dessin, l'agencement des lignes, le choix de la coupole et la décoration de ce bâtiment étaient tout à fait révolutionnaires. Si la peinture réaliste avait répondu à l'appel de la modernité assez rapidement dès le milieu du XIXe siècle avec les œuvres de Courbet, par exemple, la réaction des architectes et des artisans face à l'art du passé se fit attendre plus longtemps. Et ce, à un moment où on devait faire face à un nouveau défi, celui du développement des villes d'une part et celui de l'industrie d'autre part. L'ingénieur se posait désormais comme un concurrent de l'architecte artiste. Et qu'était-ce que cette vie moderne, si ce n'est une vie dont le rythme s'accéléra brutalement, à l'image de la danse, du cinéma, de l'automobile? Et on peut en effet mettre en parallèle le mouvement même de l'époque, bousculé par les innovations incessantes, et l'usage d'une ligne dynamique Art Nouveau. En témoignent aussi les nombreuses références au printemps. Ici, je vous montre une œuvre célèbre de Dominique Lang, réalisée juste avant 1918. Il s'agit de l'Oiseau bleu, qui fait bien entendu référence à Maeterlinck, ou pensons au terme même Jugendstil, qui fait bien entendu référence à la jeunesse. On a aussi des références à la pulsion de vie désordonnée et je vous montrerai par la suite diverses représentations de Pan ou de Dionysos. Je vous rappelle que Nietzsche l'opposait bien entendu à la rationalité. Les danseuses également, telles Isadora Duncan ou Loï Fuller, vont inspirer de nombreux artistes Art Nouveau. Ici, vous avez une lampe d'un artiste français, Agathon Léonard, et il appelle sa lampe, réalisée en 1903, « Jeu d'écharpe ». À nouveau, vous pouvez voir, bien entendu, cette ligne sinueuse. Mais nous le savons, le XIXe siècle fut complexe, et en ces temps troublés se développa également un sentiment d'angoisse, un sentiment d'angoisse existentielle qui engendra le thème du cocon dans lequel on pouvait trouver refuge. Et les beaux windows décorés de vitraux, petites serres chaudes, à nouveau je reprends un terme cher à Maeterlinck, et dans lesquels on pouvait se retirer du monde, l'illustrent à merveille. Ici vous avez l'oriel de la maison Link qui se trouve donc juste à côté. L'Art Nouveau, qui résulta du développement d'un nouveau style de décoration intérieure débarrassé du fatras archéologique, cherchait en effet, vous l'avez déjà compris au vu de ces quelques exemples, à recréer une harmonie parfaite, le Gesamtkunstwerk. Ce principe avait prévalu jusqu'au début du XIXe siècle, mais il avait ensuite cédé la place à un grand bric-à-brac, typique de ces intérieurs où cohabitaient différents styles et qui étaient surchargés d'objets de décoration en tout genre. Le premier mouvement à réagir fut celui des Arts and Crafts en Angleterre. Il se chargea de redonner aux arts décoratifs leur lettre de noblesse en promouvant le retour à l'artisanat et à une inspiration trouvée dans la nature. Les lignes ondoyantes et asymétriques apparurent dès 1883 dans les dessins de Walter Crane ou, ici, dans cette superbe chaise réalisée par Arthur McMurdo. John Ruskin, déjà cité par Madame Deck, était l'initiateur de ce mouvement qui conseillait aux architectes de s'associer aussi bien à l'extérieur que pour l'intérieur des bâtiments. Il nous a dit en 1851 « J'espère avoir clairement établi que les diverses parties d'une construction doivent mériter toute notre attention par la délicatesse du dessin, la perfection de la couleur, la valeur des matériaux utilisés. » L'appellation Art Nouveau apparut sur le continent pour la première fois en 1884 dans le périodique belge L'Art Moderne. Plongeant ses racines, bien entendu, et on le voit très bien, dans ce mouvement Arts and Craft, il témoignait également d'un intérêt pour la rationalité du gothique via Viollet-le-Duc, pour l'usage des nouveaux matériaux et pour le japonisme qui lui aussi encourageait un retour à la nature. Très vite, chaque pays donnera un nom particulier à ce style, Jugendstil, Sécession, Style et Liberty. Dans diverses régions, telles la Catalogne ou la Lettonie, L'Art nouveau épousa également les idées politiques de la jeunesse révolutionnaire et se fit le fer de lance d'un sentiment de revendication nationale. Ce fut le cas en Lettonie, à Riga. Vous voyez à l'écran un bâtiment de Michael Eisenstein. Donc à Riga, vous aviez un sentiment donc très vif, évidemment, d'appartenance nationale par rapport à l'Empire russe. Et au même moment, Riga devient un centre économique très important. Comme dans beaucoup de villes européennes, on détruit les vieux remparts de la ville et on construit de grands boulevards. Et des gens comme Michael Eisenstein contribue à faire de cette ville un des centres les plus importants d'Europe en ce qui concerne l'Art nouveau. En voici donc un premier exemple, et vous remarquerez au rez-de-chaussée le bossage, on appelle cela comme ça, qui est tout à fait caractéristique et que les architectes lettons disaient retrouver dans leur tradition nationale. Donc je vous le disais, il y avait également très souvent un sentiment de fierté et de retour à la tradition. Alors la sculpture est également omniprésente à Riga et comme vous pouvez le voir, les immeubles sont très impressionnants. À Barcelone, la volonté de renouveau politique et artistique fut bien entendu incarnée par le génie de Gaudi, dont il n'y a pas moins de 7 bâtiments classés au patrimoine mondial. Celui-ci contribua non seulement au développement des techniques architecturales, comme on peut le voir ici. Alors j'ai choisi de vous montrer plutôt que la Sagrada Familia, que vous connaissez certainement tous. Ce bâtiment peut être un peu moins connu. Il s'agit de la crypte de la colonie Güell, mais vous remarquez le fascinant schéma qui est créé par ces voûtes. Et bien entendu, Gaudi est également célèbre pour l'utilisation d'un vocabulaire naturaliste tout à fait exceptionnel. Ici, nous nous trouvons bien entendu au Parc Güell, où vous avez des bancs qui épousent la forme des vagues. Et puis, bien entendu, ici, on ne sait pas très bien s'il faut l'appeler le lézard, le dragon, mais toujours est-il qu'on a cette créature fantasmagorique qui est réalisée en bris de porcelaine. Alors, Gaudi n'est pas le seul. Le véritable bouillonnement que connut la ville à l'époque, eh bien, permit également la construction de ce sublime bâtiment. Il s'agit du Palais de la Musique, construit par Luis Domènech i Montaner. Et son vitrail en forme de goutte, vous le voyez là tout en haut, dans la salle du concert, ne laisse bien entendu personne indifférent. C'est une explosion de couleurs au sein d'une construction à armature d'acier. Et ce palais fut bien entendu décoré par les plus grands artistes de l'époque. Alors il est intéressant de noter que comme la Catalogne va rester en dehors du conflit mondial et que Gaudi va avoir une longue carrière, eh bien c'est la seule région du monde pratiquement où l'Art nouveau va continuer à se développer après la Première Guerre mondiale. À Budapest, qui cherchait également à s'affirmer politiquement au sein de l'Empire austro-hongrois, l'ornement se régénéra au contact de l'art populaire, gage d'une authenticité nationale. On peut constater ceci sur la façade de la caisse d'épargne, construite par Eugen Lechner, et vous voyez les célèbres céramiques Zollner, qui étaient très réputées dans le pays à l'époque, et qui se marient à d'autres décorations sinueuses pour recouvrir d'une manière très originale les nouveaux matériaux fer, béton, acier. Vous voyez également que tout comme à Barcelone, l'art nouveau à Budapest se fait bien entendu multicolore. Un nombre incroyablement élevé de magazines se firent l'écho de toutes ces nouvelles réalisations, aidés en cela bien entendu par un nouveau médium, la photographie. L'historienne d'art Roberta Waddell a déduit d'une étude que près de 100 revues apparurent entre 1890 et 1900. Les plus célèbres furent The Studio, Décorative Kunst et L'Art décoratif, dont voici une page issue d'un numéro daté de 1897 consacré aux ferronneries de Victor Horta. Et en voyant ceci, vous comprenez aisément que n'importe quel ferronnier pouvait réaliser une ferronnerie s'inspirant de l'œuvre de l'architecte belge. Un autre ouvrage joue également ce rôle de diffuseur, c'est celui de l'allemand Wilhelm Rehme, Architektur der Neue Freie Schule. Il connut diverses publications tellement il devint populaire dans les années 1901-1902. On a des publications réalisées à Leipzig, d'autres à Berlin. Et il porte le sous-titre révélateur, une collection de façades et de détails. Et c'est ainsi qu'on peut voir dans cet ouvrage cette photographie de l'hôtel Montessui, construit par Jules Lavirotte à Paris en 1899. Et regardez bien la partie gauche de cet hôtel et vous comprendrez aisément qu'elle a inspiré l'architecte de la Mederhaus, construite à Esch-sur-Alzette en 1907. Et d'une manière peut-être encore plus inattendue, je me suis rendu compte que le numéro 109 de la route de Luxembourg, toujours à Esch-sur-Alzette, dont vous voyez une photo, eh bien, est un copier-coller d'une maison anversoise réalisée par un certain Arthur Van de Waal. La maison de cet architecte belge, dont le nom n'est pas vraiment passé à la postérité, avait donc, vous le voyez, elle aussi, été reproduite dans cet ouvrage. Et de manière peut-être encore plus étonnante, voilà une cousine lointaine que j'ai pu photographier à Gran Canaria, donc dans les îles Canaries. Voyez, ça permettait donc des filiations vraiment étonnantes. L'autre facteur de diffusion résulte de l'organisation de nombreuses expositions internationales, facilement accessibles évidemment grâce au développement des transports. Ainsi, il est troublant de découvrir le même modèle de poignée de porte utilisé à Turin dans la Casa Fenoglio, dont vous voyez la photo. Elle a été érigée par un certain Pietro Fenoglio en 1902. Voilà la poignée de porte en question. Le bâtiment était en très mauvais état lorsque j'ai pu le voir. Vous le voyez, il a été restauré entre-temps. Mais voilà donc cette poignée de porte. Et voilà la même poignée de porte, exactement la même, que j'ai pu donc photographier dans la maison Link, ici, juste à côté. Elle a été construite un an plus tard par l'architecte Jean-Pierre Koenig pour François Link. Alors, François Link était un célèbre horloger bijoutier de la capitale. Et lorsque j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer sa petite fille, elle m'a dit qu'il aimait voyager. Il allait donc notamment voir Wolfers à Bruxelles. Et donc, il est très probable qu'il ait pu soit aller à Turin en 1902, où a eu lieu une très, très grande exposition d'art décoratif, soit il a pu en voir donc à nouveau des reproductions. En effet, on pense qu'en ce qui concerne la maison Link, c'est le commanditaire lui-même qui a dessiné de nombreuses choses, car c'est un bâtiment somme toute atypique dans la carrière de Jean-Pierre Koenig. Alors, si ce réseau d'influence contribua à faire de l'art nouveau une formule à la mode, il entraîna évidemment un vent de critique, mais il explique que l'art nouveau ait pu s'exporter très très loin. Et donc ici, nous sommes à Cuba, effectivement, dans la ville de Camagüey. Et le centre historique de cette ville est classé parce qu'il permet de voir vraiment toute l'histoire de l'art depuis le 15e siècle. Et là, vous avez une façade qui s'inspire du Jugendstil allemand. Vous pouvez le voir au niveau des pilastres. Ce qui est intéressant, c'est que cet art nouveau, eh bien, il va même s'immiscer dans un édifice peut-être inattendu, à savoir le crématorium de la ville de La Chaux-de-Fonds. Alors, la ville est classée également au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville qui est ordonnée autour d'une seule activité industrielle. Vous l'aurez peut-être compris, nous sommes en Suisse, il s'agit de l'horlogerie. Mais donc, ce qui est extraordinaire également de noter, c'est que cette ville de La Chaux-de-Fonds a vu naître une variante assez étonnante de l'art nouveau qu'on a appelé le style sapin. Et c'est le directeur de l'École des arts appliqués, Charles Lesplatonnier, dont vous voyez la fresque « Le triomphe de la vie », qui a conçu, avec les ateliers d'art réunis, un superbe crématorium érigé donc de 1908 à 1909, un autre exemple de Gesamtkunstwerk, donc d'œuvre d'art totale. Malheureusement, le feu d'artifice se calma bien vite et dès les années 1905, le style s'assagit. À Bruxelles s'élève le bâtiment, qui clôt nombre de livres qui traitent de l'art nouveau et qui commence souvent des livres qui traitent de l'art déco. Il s'agit bien entendu du palais Stockley, construit par Joseph Hoffmann de 1905 à 1911, décoré par Gustav Klimt et les Wiener Werkstätte. Il s'agit bien entendu, vous le voyez encore, d'un art de la ligne, de la surface, mais l'ornement se fait géométrique, se fait plus discret. Ici, il entoure un relief de Franz Metzner. La décoration architecturale disparaîtra bientôt tout à fait de l'histoire de l'architecture sous les coups de boutoir du modernisme et le volume l'emportera sur cet art de la ligne. Alors, le modernisme s'affirmera en Allemagne dès la fin de la Première Guerre mondiale grâce à la célèbre école du Bauhaus. Et nomade, car bousculée par l'histoire, elle a eu comme premier siège ce magnifique bâtiment que vous pouvez encore visiter d'ailleurs à Weimar. Il a été construit par Henri van de Velde en 1904 et cet édifice se distingue bien entendu par une plus grande sobriété, une volonté de rationalité. Et vous voyez que les superbes verrières tout en haut du bâtiment permettaient d'amener un maximum de lumière dans les ateliers. C'est encore une ligne un petit peu organique, héritière de, et je cite van de Velde, la vertu dynamique de la ligne. Mais bientôt, tout cela va disparaître pour laisser la place à un jeu d'horizontal et de verticale, et la défense de l'artisanat, elle aussi, s'avérera utopique, puisqu'il faudra laisser la place au couple designer-industrie. Alors, on montre toujours ce bâtiment lorsqu'on parle d'art nouveau. Il est de tradition de le montrer et de dire voilà le point de départ de l'art nouveau en architecture. Il s'agit d'un bâtiment qui a été construit par Victor Horta, qui est bien entendu lui aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, construit donc en 1893, parce qu'on y voit non seulement l'utilisation de la ligne sinueuse, la fameuse ligne en coup de fouet, mais bien entendu également parce qu'on y voit affirmé en façade, et ça c'était tout de même assez extraordinaire, l'utilisation du métal. Vous pouvez très bien le voir au niveau de l'étage. Et cette utilisation rationnelle du métal, non seulement sur la façade, mais surtout à l'extérieur, permettait de diminuer le nombre de murs porteurs et donc de faire rentrer un maximum de lumière et d'air à l'intérieur de la maison. Alors, quatre bâtiments de Victor Horta ont l'honneur d'être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a la maison personnelle dont je vous ai montré donc la cage d'escalier. Il y a celui-ci. Il y a également l'hôtel Solvay et l'hôtel Van Eetveld. Tous sont encore visibles à Bruxelles. N'hésitez pas à les voir. Par contre, pour la maison du peuple, il faudra vous plonger dans des ouvrages, ce bâtiment ayant été purement et simplement rasé. Là, les ferronneries n'étaient pas peintes en vert comme ici, mais elles étaient peintes en rouge. Alors à Luxembourg, l'architecte Jean-Pierre Koenig eut lui aussi l'audace d'utiliser ces matériaux pour la bibliothèque de la maison de retraite et d'études des jésuites au Lippertsberg en 1898. Malheureusement, là aussi, détruite. Mais vous voyez que la grande verrière permettait un éclairage génital et les poutres rivetées, donc on voit très très bien les rivets laissés visibles, eh bien, évitaient la multiplication des murs porteurs. Même les escaliers en colimaçon étaient réalisés en métal. Cette structure était édifiée au sommet d'un bâtiment néo-gothique et c'est symptomatique d'une communauté d'esprit entre l'art gothique et l'art nouveau. On a pu le constater également avec les voûtes de la colonie Güell. Alors, les nouveaux matériaux visibles en façade seront bien souvent réservés aux grands magasins, voire même au rez-de-chaussée de ceux-ci. Même Victor Horta passera en fait à la pierre dès 1905. Ici, vous avez une photo de la façade des magasins Wolfers en 1911. Le fer a dû bien souvent composer avec la pierre. Alors, c'est également le parti choisi par George Trauss pour ce célèbre magasin du centre-ville que vous connaissez certainement, Le Nouveau Paris, qui illustre toujours, malgré la perte de sa grande marquise de fer et de verre, le principe de la structure apparente. Et selon l'historien d'art Robert Philippard, qui a étudié son œuvre et que je cite, eh bien, il se serait inspiré, bien entendu, d'un célèbre grand magasin de Leipzig, le magasin Riquet. Trauss a acquis d'ailleurs une réputation solide dans le domaine de la construction des grands magasins. Et à Die Kirche, bien entendu, il était somme toute logique d'utiliser les structures métalliques pour un bâtiment qui devait magnifier quelque chose de tout à fait neuf à l'époque, à savoir l'automobile. Et on a donc la chance de pouvoir voir toujours cette ancienne fabrique de voitures Benz de Jean Wagner, aujourd'hui Conservatoire national du véhicule historique. Alors j'ai eu la chance là aussi de recevoir cette photo de l'ancien propriétaire, enfin d'un descendant, et vous voyez très bien qu'en fait, seule la première partie a été construite en 1910, et lorsque l'architecte Lutz a construit une annexe, le hall de garage en 1920, eh bien il a conservé le style Jugendstil, puisque vous avez cette ligne sinueuse, ces châssis à petits bois et les pilastres d'inspiration Jugendstil. Alors, le fer forgé connut lui aussi un extraordinaire épanouissement grâce aux garde-corps et rampes d'escalier Art Nouveau. Il séduisait les créateurs parce que justement, en fonction de sa nature malléable, on pouvait le courber, lui faire épouser les formes sinueuses. La manière de travailler le fer est cependant moderne car on utilise beaucoup de profilés plats issus de l'industrie. Ici, vous avez donc ce fer mêlé au bois pour une rampe d'escalier de la maison Link. Et vous voyez que de face, on est séduit par le très très beau drapé de bois. Et de profil, on distingue très bien les fers plats, les rivets. Donc ça, c'était une façon tout à fait moderne d'utiliser le fer forgé. Elle avait été promue par Victor Horta. Rappelez-vous cette célèbre page d'art et décoration, on pouvait le voir facilement. Et ce qui est également typique, ce sont ces petites têtes, on dirait presque des petits serpents, donc ces lignes, bien entendu, sinueuses. Il y a également une autre ferronnerie magnifique, elle est visible un petit peu plus loin dans le pays, à Mondorf-les-Bains, c'est celle de la maison Bettendorf dans cette avenue des Bains célèbre, et vous voyez en fait la ferronnerie du balcon, et là on n'est plus du tout dans les petites lignes sinueuses à la Horta, mais au contraire on voit de grosses fleurs qui émergent d'un schéma de lignes. Alors, vous le savez certainement, c'est l'architecte belge Eugène Fichefay qui est ou qui serait l'auteur de cette enfilade, mais il est évident que c'était plutôt un entrepreneur. D'ailleurs, on utilise toujours le terme « Bauunternehmer » quand on parle de lui. En Belgique, il apparaît également comme un homme d'affaires. Et donc, il s'est de nouveau lui-même certainement inspiré du fer forgé qu'utilisait Blériot. Ici, vous le voyez à l'écran, ou De Lune, qui étaient deux architectes qui ont construit des enfilades entières de maisons Art Nouveau, encore visibles à Bruxelles. Alors, toujours dans la villa Bettendorf, vous avez également une superbe ferronnerie à l'intérieur de la maison, et en voici un détail, avec toujours ce goût pour ces grosses fleurs. Alors, la fonte moins chère et reproductible était bien entendu réservée au balcon secondaire, par exemple dans ce cas-ci, à la façade secondaire du côté Place Guillaume de la maison Link. Alors, si le critique John Ruskin avait déclaré que l'architecture devait se faire remarquer, l'ornement n'en est pas pour autant gratuit. Il est l'expression du caractère organique d'une façade et son emploi judicieux permet de guider l'œil. Regardez ici, il lie véritablement les étages entre eux et il permet de souligner cette verticalité qui est si typique de l'Art Nouveau et qui permet également de faire la différence avec l'horizontalité affirmée d'un bâtiment Art déco. Vous en avez ici un très très bel exemple rue Pierre d'Aspelt ou celui-ci de la rue Michel Welter. et une alternance de pierres blanches ou plus colorées pouvait également jouer donc ce rôle de liaison et de progression vers le haut de la façade. Alors on peut distinguer divers types d'ornements. L'ornement naturaliste, qui est souvent associé au style de l'école de Nancy, même s'il caractérise également beaucoup d'œuvres de créateurs italiens ou espagnols, et c'est l'architecte George Trauss, adepte d'une architecture élégante et racée, qui opta souvent pour ce type d'ornement. Ici, vous avez bien entendu, vous le voyez, des nénuphars, et là, des tournesols. Si vous allez voir le magasin Louya dans la Grand Rue, eh bien, levez les yeux et vous verrez donc ces tournesols à la fois réalisés par le sculpteur Walter et également par un ferronnier dont là, nous n'avons pas le nom. Voyez également ici un document qui est issu de l'école du lycée des artisans de l'État, la Handwerkerschule, et donc on peut très bien voir sur ce document que l'étudiant en ferronnerie d'art a utilisé le modèle de l'iris, vous le voyez, pour son inspiration. Les marrons sont également un motif qu'on retrouve à la fois à Nancy et au Luxembourg, ici sur une très très belle cheminée conservée dans la maison Link. Vous le voyez également à propos des staffs des plafonds, donc on utilise le motif des ombelles ou alors des fleurs peut-être plus stylisées. Il faut savoir que le staff est un matériau qui a eu un succès phénoménal à l'époque. C'est comme la fonte, il est reproductible aisément, et donc on pouvait le retrouver dans différentes maisons. On pouvait l'utiliser à diverses reprises. Voilà toujours un exemple de ces ombelles, une des fleurs qui a eu le plus de succès, à la fois à Nancy et ici, dans la maison Link. Alors parfois ce n'est pas la flore qui inspire l'artiste mais la faune, et vous avez un très bel exemple de papillon également en staff, toujours visible sur les plafonds d'un des étages de la maison Link. On a également pas mal de paons ici, le 4 rue de l'Alzette à Esch-sur-Alzette, ou alors pour inspirer ici le serrurier pour une autre poignée de porte de la maison Link. Et vous voyez deux pans affrontés au-dessus de deux tulipes, et le modèle se répète en plus petit par la suite. Alors il y a bien entendu ces innombrables visages de femmes qui font qu'on attribue tout de suite une façade à l'Art Nouveau, et vous avez ceux du café de la rue du Fort dans la capitale qui répondent à ceux peut-être moins connus de la route de Thionville à Grevenmacher. La qualité de ces sculptures était parfois très très élevée, j'y reviendrai par la suite. Alors pour Victor Horta, au contraire, il ne fallait pas aller au fond des bois, comme le disait Émile Gallet, mais il fallait simplement prendre la tige et non pas la fleur. Et donc lui va développer plutôt une ligne plus abstraite qu'on a appelée la ligne en coup de fouet. Et vous voyez que Jean-Pierre Koenig l'a utilisée pour dynamiser véritablement la façade de la maison Link dans la rue du Curé. Et ce fut également le parti pris de l'architecte qui a construit l'ancien grand hôtel à Dudelange. On le voit très bien au-dessus des fenêtres. Vous avez cette ligne qui se termine par une courbe. Alors voici deux détails également de ce grand hôtel. Et vous voyez toujours cette utilisation de la ligne dynamique pour donner plus d'animation à la façade. Ici, j'ai également choisi cette reproduction pour vous montrer le pilier en bourgeon du haut, donc de ce grand hôtel à Dudelange, et voilà ce qu'on peut voir sur la maison Link. Donc on a encore vaguement l'idée d'un motif naturaliste, mais c'est évidemment beaucoup plus stylisé. Alors la tendance géométrique associée au Jugendstil et à la Sécession, elle s'exprime magnifiquement au Grand-Duché dans l'œuvre de Mathias Martin. Prenons l'exemple de cette Villa Clivio, rue Goethe, construite pour un entrepreneur italien, Cesare, devenu César, évidemment, Clivio. Comme chez Olbrich, que Mathias Martin admirait, la peinture joue ici un rôle important, et le porche d'entrée de cette villa Clivio est orné de belles fresques représentant les outils de la construction portés par des putti, un choix somme toute logique vu que le commanditaire était un entrepreneur. En Italie aussi, on s'inspirait beaucoup d'Olbricht. Il faut savoir que Cesare Clivio était originaire de Varese, en Italie, et cette ville va devenir, après le départ de l'entrepreneur, mais sans doute y retournait-il de temps en temps, un haut lieu du stile Liberty. Alors Olbricht, dont vous voyez la reproduction d'une façade ici, eh bien il a également beaucoup influencé le style de la Slovénie, toute proche de l'Italie, et je vous montre un bâtiment que l'on peut encore admirer à Ljubljana. Mais il n'y avait jamais d'exclusive, même si le Jugendstil en général se base sur une ligne plus stricte, eh bien il y a également pas mal de faune et également des masques masculins. Donc peu de femmes, plus ces visages de femmes que l'on trouve essentiellement en France, non. Vous avez des faunes barbues, ici ce paon, visible sur un très très beau carrelage. Alors il décorait jadis un café dans la capitale. Actuellement, vous pouvez l'admirer au Musée national d'histoire et d'art. Vous avez également ce très joli masque, très maniériste, hein, qu'on peut voir sur la cheminée de la maison Robur, construite par Mathias Martin. C'était sa villa personnelle. Là, on est plus tard, on est en 1911. Et il pouvait même décorer un chapiteau d'église. Il s'agit de Saint-Donat à La Rochette. Et voici évidemment un exemple célèbre, mais malheureusement disparu. Il s'agit d'un de ces masques utilisés par Olbricht à nouveau, cette fois-ci pour le magasin Titz à Düsseldorf. Malheureusement, bâtiment détruit lors de la Première Guerre mondiale. Alors, dans cette quête de l'œuvre d'art totale, la formation des architectes jouait un grand rôle. Prenons par exemple le cas de Jean-Pierre Koenig, qui avait fait ses études à l'Université catholique de Louvain de 1888 à 1903, et où on enseignait déjà aux architectes l'importance de réaliser également des projets d'aménagement. Alors pour le mouvement des Arts and Crafts, le renouveau de l'artisanat allait de pair avec une réforme de l'enseignement des arts appliqués, et c'est ainsi qu'une célèbre école, la London Central School of Art, fut créée à Londres en 1894. Cette promotion de l'artisanat gagna rapidement le continent, et ici, à Luxembourg, fut donc fondée en 1896 la Handwerkerschule. Cette ouverture suivait celle, 3 ans plus tard, de la bibliothèque professionnelle technique et commerciale. Alors, dans les magasins d'art, on présentait bien entendu des ensembles complets, et c'était la même préoccupation que l'on pouvait trouver à cette école d'art. Ici, je vous montre à nouveau, c'est pour ça que le cliché n'est pas idéal, évidemment. Il s'agit d'une photo très ancienne qui est conservée dans un ouvrage au lycée des artisans de l'État, donc jadis Handwerkerschule. Et vous voyez que tout, absolument tout, est réalisé en art nouveau. Donc on encourageait vraiment les élèves à constituer cet exemple d'art total. Alors, cette école des artisans de l'État va en fait former des artisans fabuleux qui vont réaliser ce que je vais vous montrer maintenant dans la deuxième partie de mon exposé. Donc, vous avez bien entendu des sgraffites. Alors, le sgraffite est une technique peut-être moins connue en France, en Allemagne, mais elle a eu énormément de succès en Belgique. C'est une technique qui avait été développée à la Renaissance et puis qui a connu une renaissance, c'est le cas de le dire, au 19e siècle, et elle a eu beaucoup de succès en Belgique. Ici, je vous montre à nouveau une de ces photos que vous pouvez voir dans l'ouvrage de Willem Reem et qui nous montre deux maisons de l'avenue de Tervuren. Mais bien entendu, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est l'utilisation du sgraffite au Luxembourg. Ici, dans l'avenue des Bains, Bon, ce n'est peut-être pas un hasard puisque Fichefay a vécu sur l'avenue de Tervuren, donc il a pu en voir de nombreux exemplaires et il a pu également peut-être inspirer l'artiste qui a réalisé ceci. Mais Madame le citait tout à l'heure, vous avez bien entendu ce magnifique exemple de ce graphite qui a été restauré au 23 du boulevard Grande-Duchesse Charlotte. Et vous voyez que là aussi, ce graphite n'est pas gratuit, il sert véritablement à faire le lien entre la fenêtre du premier étage et celle du deuxième étage. Malheureusement, assez fragiles, quand ils sont négligés, ils disparaissent purement et simplement des façades. Alors, la sculpture décorative est également omniprésente dans l'Art nouveau, et ce n'est pas un hasard si George Trauss lui consacre une conférence au cercle, juste ici à côté, le cercle artistique en son temps, en 1899. Il l'utilise également pour décorer le balcon du numéro 60 de la route d'Esch, que vous pouvez donc aller voir aisément. Et vous voyez que ce visage est tout simplement magnifique, il vaut vraiment une sculpture à part entière, on dépasse la simple sculpture décorative. Alors au Luxembourg, il y avait également de très très belles pierres que l'on pouvait utiliser, soit du grès rouge pour la maison Link, soit ici un grès jaune qui a été choisi par l'architecte qui a voulu décorer d'une sculpture la maison qui est située rue Michel Welter. Alors, la sculpture décorative pouvait également servir d'encadrement de portes ou alors être utilisée en bas-relief, voire en ronde-bosse pour la Villa Robur. Donc ici, à nouveau, on est devant la villa personnelle de l'architecte Mathias Martin et vous voyez ici l'utilisation d'un poteau pratiquement en trois dimensions. Alors, pour le porche de sa villa personnelle, Bettendorf a choisi un bas-relief de Pierre Federspiel, un modèle, en fait, de celui de la frise de la comtesse Ermesinde que vous pouvez voir, évidemment, au cercle tout proche. Mais moi, je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer cette œuvre qui a réapparu tout récemment. Donc, c'est une œuvre qui a été réalisée par Pierre Federspiel pour une maison bruxelloise. Il faut vous imaginer que ce que vous voyez fait 2 mètres de haut. C'était donc une sculpture qui représentait la pureté, qui est datée de 1900 et qui a été vendue par Sotheby's en 2016. Et donc, malheureusement, elle a quitté son environnement d'origine puisque la dame qui l'a vendue a dit que cette œuvre avait été réalisée pour sa grand-mère et n'avait jamais quitté le hall d'entrée de la maison bruxelloise. Donc voilà de nouveau un exemple de ces œuvres qui quittent leur emplacement d'origine et du coup on n'a plus évidemment cette œuvre d'art totale. Mais donc c'est une œuvre très 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 belle. C'est un particulier qui l'a achetée. Donc là je ne sais pas qui la possède actuellement. Alors, l'art de la céramique contribue lui aussi à donner cette animation que l'on cherche tellement en façade. Ils peuvent être très simples, hein, les carreaux de céramique, comme ici sur la façade de la Villa Pire, dans la rue Goethe, construite bien entendu toujours par Mathias Martin, ou au contraire, présenter de véritables paysages carrelés. Ici, vous avez le panneau qui a été réalisé par Villeroy et Bock et qui décore le porche d'entrée de la villa Bettendorf dans l'avenue des Bains. Alors, vous serez peut-être étonné quand vous vous promenez dans l'avenue des Bains de voir ce porche tellement décoré. Il faut savoir qu'à l'époque, la maison était entourée d'un petit parc. Donc ça, on le sait par des documents qui sont conservés aux archives nationales. Et donc, il était de tradition à l'époque de s'asseoir dans le porche de sa maison et de profiter ainsi de son parc. Et il n'y avait évidemment que quelques passants qui se rendaient à pied vers le parc thermal. Et donc, c'est pour ça que vous trouvez ces très, très beaux carrelages. Ici, par contre, nous trouvons un carrelage de la maison Link, et ce type de carrelage, vous le voyez, est utilisé sur les murs sous forme de lambris. Alors ici, il s'agissait non seulement de décorer la maison, d'apporter une note de couleur, mais c'était également utilisé pour des raisons hygiéniques. On parle beaucoup de santé, d'hygiène à l'époque, et donc il faut que les couloirs d'entrée soient facilement nettoyables, facilement propres, et donc on va utiliser ce type de carrelage. Donc vous voyez ici ce vert de la maison Link, et puis par contre, nous avons également des carrelages de la firme Servais, qui était représentée, bien entendu, au Luxembourg. Et ici, nous avons une reproduction de la Villa Collard, construite à Steinfort en 1904. Alors, si on la retrouve donc en façade, ici toujours l'avenue des Bains à Mondorf, il faut vous imaginer une cheminée assez exceptionnelle, tout en grès, qui a été réalisée par Müller et qui se trouve dans la villa Bettendorf et qui a une petite jumelle, assez curieusement, qui se trouve au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique, rue de la Régence. Et le plus extraordinaire, c'est un gros visage joufflu et des lignes sinueuses. Et donc, en fait, c'est une cheminée qui avait été réalisée pour une chanteuse, Yvette Guilbert, qui a eu un succès monstre à Paris. Et on pouvait la voir sur une photo de l'hôtel particulier de cette chanteuse. Alors, si les architectes pouvaient puiser leurs idées de décoration de façade dans le livre de Wilhelm Rehm dont je vous ai parlé, eh bien, les menuisiers, eux, pouvaient également trouver des idées dans un autre de ces ouvrages dont vous voyez une photo ici. Il s'agit de Der moderne Bautischler Arbeiten. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que parfois Rehm se trompe, et ici, l'architecte n'est pas Lefèvre, comme il le dit, mais un autre, Van Varenberg. Mais toujours est-il que le modèle, vous le voyez, permettait évidemment aux réalisateurs, aux menuisiers de s'inspirer. Voici une autre de ces portes de Blériot, toujours à Bruxelles, et on comprend qu'il était facile d'y trouver son inspiration. Alors, je voulais juste dire une chose en ce qui concerne la conservation de ces menuiseries et de ce bois Art Nouveau. Ici, vous le voyez comme il doit être, à savoir naturel. C'est une véritable hérésie, mais je ne veux pas critiquer, bien entendu, et surtout pas les propriétaires de l'immeuble, mais à notre époque, nous avons évidemment tendance à tout peindre en blanc. Il faut savoir que les menuiseries Art Nouveau ne l'étaient jamais, jamais. Tout était toujours laissé en bois naturel. Ça pouvait bien entendu être poli, être verni, mais ce n'était jamais peint en blanc. Malgré tout, bien entendu, je salue toujours les propriétaires qui ont conservé tout cela intact. Et vous voyez ici une porte de la maison Link qui a conservé un très très beau vitrail en plume de paon. Alors, le mobilier, bien entendu, joue un rôle important dans l'Art Nouveau, et nous avons la chance, toujours dans cette maison Link, de pouvoir voir une superbe cheminée qui rappelle en fait ce que l'école de Nancy a appelé les meubles parlants. Donc, à l'école de Nancy, vous aviez notamment le célèbre verrier Émile Gallet qui appelait ses vases d'un nom, ou alors il les dénommait d'après un poème, et ça a engendré cette idée de meubles parlants. Gallet a également créé une chambre à coucher qu'on a appelée Aube et Crépuscule. Et ici, vous voyez une superbe cheminée avec deux visages de femmes qui sont tout simplement magnifiques et qui pourraient représenter en fait les deux polarités de la femme à l'époque 1900, à savoir l'ange et la célèbre femme fatale, bien entendu.
Konferenzen, Enregistrement zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Der Vortrag vom 5. Oktober, Le patrimoine architectural du 20e siècle, Art Nouveau, Art Total aux multiples facettes. Les sites classés à l'UNESCO et le Grand-Duché de Luxembourg. Die Konferenzière war Muriel de Greuf von dem Musée Royal de Beaux-Arts de Belgique. Sie ist Kunsthistorikerin und anderem Autor von den Publikationen von Jugendstil au Grand Duché de Luxembourg und Un Nouveau au Grand Duché. Am Vortrag wurden relativ viele Fotos von Sujets gewiesen, die auch gut von der Konferenz her beschrieben sind. Leider können wir aus verschiedenen Gründen Fotos auf unserem Site des Kirchen nicht weisen. Der Vortrag ist eine verkürzte Version. Wenn ihr um komplette Vortrag interessiert seid, die Fantasien in der Konferenzen am deres Programm auf 100,7.lu oder auch an unseren Archiven, wo übrigens alle Konferenzen chronologisch abgelöscht sind. Merci für den Interesse, und weiterhin ein gutes Ecoute um Radio 100,7. Bleibt gesund!